Sud Radio 10h midi, débat.
Et vous avez toujours la parole, 0826-300-300, vous le savez, avec nos débatteurs qui sont là avec nous ce matin. Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social, environnemental. Thomas Porte, conseiller politique, auteur de Au cœur de la haine, aux éditions Arcane 17. Florence Berthou, maire du 5e arrondissement. Et Éric Vérag, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Alors, on parle ce matin, l'actualité s'impose à nous, c'est cette attaque au couteau à Nice, on vient d'en parler dans l'info. Le bilan est de trois morts. Le parquet antiterroriste a été saisi, voilà, avec plusieurs blessés également, et Emmanuel Macron qui va se rendre sur place dans la matinée. On en était à parler des réactions des uns et des autres et du sentiment d'abattement. Donc il y avait une mise au point entre vous, Florence, et ce que disait Thomas Porte sur est-ce qu'on peut désigner des responsables clairement définis? C'est compliqué aujourd'hui de l'affirmer, mais vous ne vouliez pas qu'on mette l'enseignement catholique.
Enfin, écoutez, il y a ceux qui respectent les lois de la République, d'ailleurs. Partout,
mettez-vous près du micro, Florence.
Il y a ceux qui respectent les lois de la République, et puis il y a ceux qui les respectent pas. Quand on va à l'école en voile, avec un voile intégral, dans des lieux improbables, on le sait, avec des enseignements qui sont des enseignements qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de l'éducation nationale. Alors, on peut quand même pas mettre tout ça dans le même tambour de la machine à laver. Faut pas tout confondre. Hein. Il y a un cadre, donc il faut qu'on ait un cadre pour tout. Il y a aujourd'hui un cadre qui est respecté ou ne l'est pas, d'ailleurs, quelles que soient les confessions, il s'avère aujourd'hui que, très clairement, il y a, oui, une forme de noyautage, d'ailleurs pas une forme, un noyautage de partie de l'éducation par le courant islamiste et les salafistes. Alors, voilà. C'est pas non plus des milliers, c'est pas non plus des centaines d'écoles. Elles sont connues, ça me paraît assez normal. Alors, c'est la même chose pour les associations qui professent la haine.
Bien sûr. Alors, je voulais vous demander, parce que ça fait donc à peine deux semaines qu'on a connu le drame de Conflans avec la décapitation de Samuel Paty, ce professeur d'histoire géographie. Il s'est dit beaucoup de choses depuis. Il y a eu beaucoup d'interventions. Il y a eu le discours d'Emmanuel Macron aussi. Il s'est passé beaucoup de choses, les uns et les autres. Jean-Luc Benamias, je commence par vous. Dans ce que vous avez entendu, dans la volonté de mettre fin ou tenter de mettre fin à ce qui s'est passé ou à ce qui est en train de nous arriver, qu'est-ce que vous retenez finalement qui va dans le sens, on va dire, d'un combat acharné contre cet islamisme radical qui s'instaure et qui s'est installé?
Si on revient sur la déclaration, le discours d'Emmanuel Macron.
Il y a Darmanin aussi. Hein.
Oui, je parlerai de Darmanin plus tard, si vous voulez bien. D'accord. J'ai pas la même opinion, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a fait beaucoup d'erreurs depuis et il continue à en faire. Je voulais dire par là que le président de la République avait été plus qu'honorable, et le terme est faible, par rapport à... Je pense que c'était une pensée quasiment unanime dans la classe politique française. Pour le reste, les problèmes géopolitiques mondiaux, j'en ai parlé tout à l'heure, sont tellement importants, tellement énormes, notamment quand on voit la politique de M. Erdogan aujourd'hui, que quelles que soient les mesures prises par les autorités françaises, il n'est pas simple de combattre un terrorisme de ce genre. Quand j'appelle ça islamofascisme, je sais ce que je dis, je l'affirme, nous avons affaire à une pratique mondiale qui nous touche de près en France, mais pas qu'en France. L'Angleterre est touchée, l'Allemagne est touchée, je parle de l'Europe là, tout le monde le voit, avec le même genre d'attentat et le même genre de choses absolument abominables. Voilà, pour le reste... je ne mélange pas tout je m'excuse, hein, les attaques continuelles contre le syndicalisme français me paraissent totalement hors de propos. J'ai été vérifié pendant la pause, jamais le SNES n'a fait des déclarations abominables. Enfin, le SNES est une grande organisation syndicale qui représente la majorité des enseignants. Jamais les enseignants n'accepteraient que leur syndicat majoritaire pose des actes absolument odieux. Faut faire attention, quoi, hein. hein, l'espace politique social français demande plus d'apaisement que de positions d'affirmations contradictoires. Et à ce niveau-là, attaquer le syndicaliste, quel qu'il soit, ne me paraît pas une bonne chose. Loin de là.
Puisque vous parlez, Jean-Luc Benhamias, justement de, on va dire des enseignants quelque part, hein, puisque on peut pas s'empêcher de penser que lundi les élèves vont reprendre confinement oblige, mais les cours, et qu'il y aura à 10h du matin un hommage qui va être rendu. Pour l'instant, on a peu de détails, hein, sur ce qui va être proposé dans les établissements scolaires en fonction de l'âge des enfants. Mais comment, quand on est enseignant, je ne sais pas, ou comment on est adulte, on va devoir parler de tout ce qui s'est passé en l'espace de 15 jours pour des cerveaux jeunes qui sont aujourd'hui. Non, mais c'est une vraie question. Comment on peut l'imaginer? Comment on peut faire quelque chose qui ressemble à un hommage et qui pose le débat sereinement, quand on voit, les sondages, on voit comment c'est pris dans la société, on voit comment ça tend les gens. Qui veut commencer, Florence?
Je pense qu'il faut aborder ça avec beaucoup d'humilité, parce que la réalité, c'est qu'il y a un cadre. Et puis après, je pense que les enseignants vont parler aussi avec leur trip, avec leur propre vécu. Il ne faut pas être hypocrite. Je pense que la manière dont on va en parler, dont on va l'aborder, elle va aussi peut-être dépendre un petit peu des classes qu'on a en face de soi. Il y a des mots, il y a des choses qui ne seront pas dites de la même manière. Donc, je pense qu'il va y avoir, c'est comme ça, il y a l'éducation nationale, elle va envoyer quand même un cadrage, hein, avec, comme on dit, des éléments de langage, mais on ne va pas parler d'abord en fonction de l'âge, hein, vous n'allez pas dire la même chose...
D'ailleurs, on explique, hein, on commence... Bon, les cours maternelle,
je ne vois pas trop ce qu'on peut raconter, objectivement. Hein. Donc, ça va être le primaire, le collège, et puis les lycées, voilà.
Ouais, c'est vrai, et on rappelle que si c'est décalé,
les chefs d'établissement auront
un rôle important.
Le chef d'établissement, moi, je le vois de plus en plus, hein, comme maire. C'est-à-dire qu'on voit bien le chef d'établissement, le directeur d'école, il a un rôle très important. La manière dont il fédère autour de lui la communauté éducative, la manière dont il met aussi du lien, dont il apaise.
On a vu aussi qu'il y a beaucoup d'enseignants qui n'osent plus en parler. Donc, c'est vraiment des choses qui sont véritablement compliquées. Alors, on file à Nice tout de suite, retrouver Marine Brenier qui est avec nous en ligne. Bonjour, Madame Brenier.
Bonjour.
Vous êtes députée Les Républicains des Alpes-Maritimes. Vous êtes aux abords de la cathédrale où a eu lieu ce matin cette attaque au couteau. Qu'est-ce que vous savez exactement de ce qu'il s'est passé ce matin vers 9h dans l'église de la cathédrale de Nice?
Ben écoutez, je crois que les informations ont été transmises directement. Il y a malheureusement 3 victimes de cet attentat. Je crois que on peut le dire de cette manière-là. L'individu est rentré dans l'église et il s'est attaqué à 3 personnes, dont le gardien est une fidèle. Et aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment à la fois de sidération et de colère dans cette ville qui a déjà été meurtrie par les attentats de la promenade des Anglais. Même pas un mois après la tempête Alex, ce sont des moments qui sont très difficiles. Mais vraiment, enfin, je crois que ce qu'il faut rappeler et vraiment dire, c'est remercier les forces de l'ordre, les policiers municipaux qui ont interpellé cet individu, remercier les pompiers aussi qui sont sur place. Vraiment, on a la chance dans notre pays d'avoir des forces de l'ordre qui sont formidables et qui savent s'activer dans ces moments-là.
On attend le chef de l'État. Vous confirmez l'avenue d'Emmanuel Macron du côté de Nice, là, fin de matinée.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Justement, l'émotion, on l'imagine, est immense, hein, dans les rues Nice, comme elle est partout avec cette attaque ce matin. Vous le disiez, ça arrive 4 ans après l'attentat de la promenade des Anglais. Il y avait des tensions particulières ces derniers temps du côté de Nice?
Non, simplement les tensions qui sont ressenties dans le pays, hein, et on entendait même certains nous dire qu'à l'approche de la Toussaint, il risquait d'y avoir ce genre de phénomène aux abords des églises et des cimetières. Je vous cache pas que aujourd'hui c'est beaucoup de colère que notre ville soit de nouveau touchée par cette attaque terrible. J'étais moi-même samedi dernier dans cette église puisqu'il y avait une commémoration qui était organisée pour les Arméniens. On a beaucoup prié pour la paix et aujourd'hui, quelques jours seulement après, voilà, il se passe cet acte abject qui nous anéantit tous.
Merci beaucoup Marine Brenier. Je rappelle que vous êtes députée Les Républicains des Alpes-Maritimes et vous êtes ce matin en direct de Nice hein, pour évoquer avec nous hein, cette attaque au couteau. Je vous rappelle le bilan, 3 morts, plusieurs blessés. On attend Emmanuel Macron. Le parquet antiterroriste a donc été saisi. Nous, on continue d'en débattre également avec vous. Si vous souhaitez réagir, 0826 300 300, ce matin sur Sud Radio. On continue d'en parler tous ensemble jusqu'à midi. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Parlons vrai, vous nous appelez 0826 300 300. On continue de débattre avec nos débatteurs du jour. Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social, environnemental. Thomas Porte, conseiller politique. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Éric Vérague, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Et on est sur la dernière actualité ce matin. Cette attaque au couteau, attaque terroriste à Nice, qui a fait 3 morts dans la cathédrale Notre-Dame de Nice. Plusieurs blessés. Donc le parquet antiterroriste est saisi. Emmanuel Macron est attendu d'ici quelques instants à Nice. Et on va également continuer d'en débattre. Mais avant cela, nous sommes en ligne avec Bruno Bartocchetti. Bonjour Bruno Bartocchetti.
Oui, bonjour.
Responsable unité SGP Police FO de la zone sud. Que savez-vous, Bruno Bartocchetti, de ce qu'il s'est passé donc peu après 9h dans la cathédrale Notre-Dame de Nice?
Voilà, ce qu'on retient, bien sûr, ce sont ces 3 victimes, hein, cet individu, un individu de 20 ans environ, qui a tué à coups de couteau 3 personnes, 2 à l'intérieur de l'église à ma connaissance, une autre personne juste à la sortie, et il a été neutralisé très rapidement par les policiers municipaux, les policiers nationaux également, qui sont intervenus très très rapidement sur les lieux, sinon il aurait pu commettre d'autres actes aussi violents. Voilà, ce qu'on peut retenir. Bon, bien sûr, ce qui est à retenir également, c'est un travail, vous savez, en France, exemplaire par les renseignements territoriaux, mais malheureusement, là, bien sûr, on retient un attentat terroriste, hein, mais on va avoir du mal à déterminer s'il est dans un réseau ou s'il est intervenu tout seul, je veux dire, dans son esprit, parce qu'on sait qu'on a affaire, bien sûr, à un déséquilibré, comme on peut l'imaginer, même si on retient l'attentat terroriste.
Bien sûr. Qu'est-ce que savez-vous? Vous dites l'auteur des faits a 20 ans, il a été blessé. Il semblerait qu'il soit donc actuellement soigné à l'hôpital, c'est ça?
Oui, c'est bien ça. Il est entre la vie et la mort. Je crains que malheureusement, même si on arrivait à le sauver, je crains que ce sera quand même assez difficile pour peut-être avoir des informations sur les personnes qui peuvent être derrière lui dans le cadre de cet attentat. S'il y a des personnes derrière lui, mais ce qui a été le plus important, qu'il soit entre la vie et la mort, ce qui a été le plus important, bien sûr, ça a été de le neutraliser. Il est très très sérieusement blessé et c'est un acte très très rapide de la part des policiers municipaux dans un premier temps qui ont permis justement de l'interpeller.
Est-ce que vous aviez des consignes pour protéger, surveiller des lieux de culte comme les églises en cette approche de la Toussaint, parce que Christian Estrosi demande justement peut-être un renforcement des mesures de sécurité autour des églises en cette veille de fête religieuse?
Oui, absolument, que ce soit les églises et les synagogues. Mais vous savez, les policiers, les enseignants, on l'a vu récemment, là aujourd'hui, dans une église, tous les endroits sensibles sont surveillés. C'est très difficile de mettre, comme vous l'imaginez, un policier devant toutes les cathédrales de France et devant toutes les synagogues. Mais vraiment, on y met beaucoup de force et de volonté pour surveiller tous les établissements afin qu'on arrive à l'approche de Toussaint dans des conditions sereines. Maintenant, j'emploie le mot serein, avec ce qui vient de se passer à Nice, ça va être assez compliqué, je vous l'avoue.
Ouais. Merci beaucoup Bruno Bartocchetti d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, responsable unité SGP Police FO de la zone sud. Donc vous nous confirmez que l'auteur de cette attaque est âgé d'une 20aine d'années et qu'il est dans un état désespéré, transféré à l'hôpital de Nice. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un effet d'entraînement de ces derniers temps? Alors je vous vois dire non, Jean-Luc Benamias de la tête de dernier événement.
Mais parce que, excusez-moi, j'ai pris la parole un peu beaucoup, mais je vais aller vite. On ne peut pas dire que tout ça soit l'affaire de déséquilibré. Ça n'est plus crédible.
Ça n'est plus possible.
C'est une préparation de longue date, je le répète.
Mais j'arrête là.
Excusez-moi.
Là-dessus, Éric Verhaeghe, est-ce que...
On n'est pas dans... Il faut qu'il y ait une instruction judiciaire et qu'on approfondisse ça. Mais la théorie des loups solitaires, c'est évidemment du baratin. En réalité, il y a des réseaux...
Depuis Mera, on dit ça.
Depuis Mera, on ressort régulièrement, chaque fois qu'il y a un axe, c'est un des axés.
Est-ce que les choses ne sont pas un peu en train de changer là-dessus ?
Je vais essayer de finir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un sujet plausible, qui est que le président Erdogan organise des filières terroristes, ou en tout cas, d'une façon ou d'une autre, les nourrit, les abrite, les protège. Et je suis convaincu qu'il y a un signal qui a été donné, mais la Ligue islamique mondiale a appelé au boycott des produits français. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on ne peut pas ignorer, que les pouvoirs politiques musulmans appellent, d'une façon ou d'une autre, à une déstabilisation avec des intérêts pratiques concrets.
Thomas Porte, on ne vous a pas trop entendu, mais je vous donne la parole. Est-ce qu'il faut renforcer la sécurité dans les prochaines heures, les prochains jours ? Est-ce que c'est un signal à donner ? Est-ce que la pression sur la France aujourd'hui s'accentue particulièrement ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Moi, je crois que la pression sur la France, elle a toujours été extrêmement forte. Et effectivement, il a été pointé du doigt ici ce qu'a dit le président Erdogan. Et c'est particulièrement préoccupant, et notamment la réaction de son vice-ministre de la Culture, je crois, hier, qui a tweeté sur la une de Charlie Hebdo, où il a insulté les journalistes. Donc c'est quand même des propos qui sont extrêmement inquiétants. Je crois qu'il faut vous me prendrez par un défaut là-dessus, il faut une réponse extrêmement ferme à ces actes-là, et à tout ce qui peut entraîner ces actes-là, et à tout ce qui met en danger les valeurs de la République. J'ai aucun souci là-dessus, mais je crois qu'on a aussi besoin dans ces moments-là, de sortir avec des paroles aussi d'apaisement et de ne pas s'ouvrir sur les braises. Parce qu'il y a quand même des événements qui se sont passés dans le pays. On a vu à Bordeaux la mosquée qui a été victime de tags. On a vu à d'autres endroits du territoire des mosquées qui ont été dégradées. Donc il faut faire attention, les responsables politiques, ils ont le poids d'une parole publique qu'ils portent et ne pas souffler sur des braises dans un moment qui est très incandescent. Mais il faut une réponse de fermeté pour ne plus laisser passer ça. Ça, c'est une réalité et je crois qu'on l'a toujours dit, y compris dans le mouvement progressiste. On n'a pas de souci là-dessus, mais il faut aussi rappeler les responsabilités. Je termine là-dessus. Vous avez parlé d'Erdogan, mais qui a négocié à l'époque en Europe des accords pour arrêter les flux migratoires et donner de l'argent à la Turquie pour qu'elle accepte de garder sur son territoire des migrants et à fermer les yeux sur tout ce qui se passait à côté. C'est l'Union européenne, donc il faut arrêter aussi de commercer, de passer des accords avec tous ces pays-là qui promeuvent une idéologie qui est extrêmement dangereuse. Et on voit Manuel Valls qui se fait le chantre de la laïcité. Mais on peut regarder les accords commerciaux qui ont été passés avec les pays quand il était dans le gouvernement. Donc il faut aussi mesurer le contexte international et la politique internationale, et la géopolitique, elle entre fortement dans ce qui se passe aujourd'hui.
Est-ce que c'est juste un problème de laïcité, Florence Porte, là, où on dépasse maintenant avec...
Florence Gatou.
Une synthèse tout à fait révélatrice.
Mais c'est une synthèse assez réussie.
Pardonnez-moi.
Ne changez pas tout de suite mon identité.
Non. Mais est-ce que c'est une question simplement. Est-ce que j'ai envie de vous dire, est-ce que ça, on peut s'arrêter simplement à un problème de conception de la laïcité à la française aujourd'hui, ou est-ce qu'on dépasse maintenant, il y a vraiment un nouvel ordre mondial par rapport à tout ça.
Je pense que c'est pas d'ailleurs que la conception de la laïcité à la française. C'est effectivement une question mondiale avec des réseaux qui sont des réseaux totalement mondialisés, et avec, je voudrais dire quand même, ce paradoxe en France où au fur et à mesure, qui n'est pas d'ailleurs qu'en France, mais au fur et à mesure que nos services de renseignement sont devenus de plus en plus, parce qu'on voit toujours le verre à moitié vide, on critique beaucoup, mais enfin la réalité c'est qu'on a quand même des services de renseignement qui sont très très performants, qui ont déjoué des dizaines d'attentats, on ne le dit pas assez, depuis Mohamed Remmera, depuis 2012. Donc les réseaux, notamment les réseaux d'armement, etc., sont de plus en plus contrôlés. Et le développement du terrorisme se fait aussi et surtout par les réseaux Internet, avec des appels au meurtre qui se font les réseaux depuis l'étranger d'ailleurs ou la France.
Oui. On l'a vu d'ailleurs avec l'enquête qui a été très vite sur le profil du tueur de Conflans, et effectivement que c'est passé essentiellement
Samuel Paty,
sur les réseaux sociaux.
Son assassin, ça passe aussi et surtout par les réseaux sociaux.
Donc, Monsieur Benhamias, parce qu'avant de faire la pause de la demi-heure là et de passer au deuxième sujet, gros sujet du jour avec vous, le combat sera long, il est multiple. par rapport à cette, aux attaques terroristes?
C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas de solution, il n'y a aucune solution miracle. Mais je répète, et je suis d'accord avec M. Porte, cette société aujourd'hui, et on va parler du reste juste après la pause, a besoin vraiment d'apaisement. Et quand je dis ça, c'est pas un
vain mot. C'est pas gagné. Hein.
Les divisions qu'on sent dans le camp, dans le champ républicain français, sont, de mon point de vue, très malvenues.
Oui, et qui souffle trop sur les braises en ce moment, au lieu de revenir en ce moment?
Vous savez, moi je veux bien dire un mot.
Oui.
Tout le monde connaît mon attachement au Parti communiste français et, voilà, et mon militantisme. Mais quand on a un tag sur les locaux du Parti communiste français avec le mot « collabo », quand on connaît l'histoire de ce parti-là, dans cette période-là, et qu'on a une responsable politique nationale, Marine Le Pen, qui refuse de condamner ce tag-là, c'est quand même extrêmement inquiétant sur le climat qu'il y a dans la société française.
Donc il y a beaucoup de choses effectivement en termes d'éducation, d'histoire, et le combat sera long. Alors évidemment on y reviendra tout à l'heure avec Philippe David sur le dernier développement de cette attaque au couteau à Nice, hein. Je vous rappelle le bilan tragique, 3 morts, l'auteur des faits, hein, ce qu'on apprenait tout à l'heure, âgé de semble-t-il une 20aine d'années, a été interpellé, il a été blessé au cours de son interpellation et il est dans un état critique à l'hôpital de Nice. Et on attend donc la venue de Emmanuel Macron, Gérald Darmanin à Nice. Et donc, dernière information également confirmée, le parquet antiterroriste de Paris a été saisi pour une enquête de flagrance. Voilà ce que l'on sait pour l'instant. On va continuer de parler de l'actualité avec les annonces faites hier soir par Emmanuel Macron. Hein, ce confinement saison 2, comme l'ont titré plusieurs de vos journaux ce matin. Et on en parle depuis tôt sur l'antenne de Sud Radio. On continue de débattre avec tous nos amis, Jean-Luc Benamias, Thomas Porte, Florence Berthoud, Éric Vérague, les invités jusqu'à midi pour débattre, et vous nous appelez également au 0826 300 300. Ce confinement, saison 2 qui démarre tout à l'heure à minuit partout en France. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Et le débat continue jusqu'à midi avec Jean-Luc Benamias, Thomas Porte, Florence Berthoud et Éric Vérague, nos débatteurs du jour. Jusqu'à midi, on va parler donc des annonces d'Emmanuel Macron. Hier soir, 20h, après 11 minutes, hein, j'ai regardé sur ma montre hier soir, après donc un préambule où il explique l'état de la situation dans le pays. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, je ne sais pas vous, c'est l'annonce que d'ici une petite quinzaine de jours, on peut atteindre jusqu'à 9000 personnes en réanimation. Donc la consigne est claire. Restez chez vous et aidez les soignants en restant le plus possible à la maison. Alors, on parle d'un confinement, mais c'est un confinement light, puisqu'il y aura beaucoup de dérogations, à commencer par les écoles qui vont rester ouvertes, les collèges et les lycées. On a appris ce matin, donc quelques précisions. J'ajoute, les enfants seront masqués dès l'âge de 6 ans, c'est-à-dire dès le CP, donc toute la partie primaire, pas en maternelle, c'est très compliqué visiblement. Dès l'âge de 6 ans, les enfants seront masqués. Et il y avait quelques précisions qui restaient à être faites également. Les marchés de plein vent seront autorisés, ce qui avait donné lieu au début du premier confinement à effectivement des querelles entre préfets et maires pour laisser ces marchés de plein vent ouverts et pas envoyer tout le monde dans les supermarchés. En revanche, les commerces non essentiels vont fermer. Est-ce qu'il a tenu un discours rassurant où on sait où on va? Jean-Luc Benamias, hier soir, quand vous avez écouté Emmanuel Macron, vous vous êtes dit quoi?
Je l'ai écouté pendant les 10 premières minutes, comme vous l'avez dit. Les annonces, on les avait déjà quasiment à l'avance. Pour une fois, ce qui était...
Oui, mais on est toujours... On aime bien avoir la confirmation de ce auquel on croit. On ne croit pas tout à fait encore.
Mais moi, je ne considère pas que ce soit un confinement light. Hein. Il n'est pas light, il est bourré comme d'habitude. Et ce n'est pas facile, hein, je suis d'accord, de complexité, de contradiction. Vous venez de le dire... Enfin. Il faut s'en remettre dans le contexte. Les enfants de 6 ans vont porter un masque à plein temps.
Ça arrive de...
C'est totalement pour moi. Il y a un côté là-dedans.
Il y a des pays qui le font, l'Italie, l'Espagne.
On est passé au stade, ouais. On est passé au stade des bouquins de science-fiction que je lisais quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire qu'on y est, quoi. Et dans ce cadre-là, je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est compliqué. Mais alors, on dit aux gens, prenez les transports collectifs. C'est quand même là qu'on peut attraper le Covid, en partie. On dit aux enfants, vous pouvez aller à l'école, au collège et au lycée. Je n'ai pas très bien compris si les collèges et les lycées continuent à être ouverts.
Oui, ils sont ouverts.
Ah bah oui.
Il me semble que oui. Faites tout ça. Et après, on rentre en famille. il y a un côté dans c'était trop long pour moi son discours hier, mais passons, ça c'est mon avis, c'est mon avis. Mais pour le reste, je suis pas certain qu'il y ait des solutions faciles, parce que ce Covid dont on parle depuis maintenant plus d'un an est vraiment un virus très 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 spécifique. Sur lesquels évidemment les scientifiques de toute sensibilité travaillent énormément et heureusement, mais qui nous surprend absolument tout le temps. Voilà, je vais pas. Voilà. Après, sérieusement, hein, je crois que je ne sais pas si une société, la nôtre comme celle en Europe et dans le monde, peut supporter tout ça très longtemps. J'en doute.
Est-ce qu'il y aura une acceptation d'ailleurs, tiens, question, de ce qu'on va imposer aux Français à partir de ce soir? On voit qu'il y a des tensions dans d'autres pays, et notamment on pense aux Italiens, qui n'acceptent pas ce reconfinement qui leur est imposé. Thomas Porte, est-ce qu'il va y avoir une acceptation de toutes ces mesures, ou on est déjà dans l'anticipation? On a vu, hein, aux abords des grandes villes, notamment Paris, déjà hier soir, des gens qui prennent la poudre d'escampette pour aller être confinés ailleurs qu'à Paris. Voilà, les gens s'adaptent visiblement.
Oui, bon, entre le fait de partir hier...
Bien devant votre micro.
Pardon, le fait de partir hier, se confiner à la campagne, et le fait de ne pas respecter les mesures qu'il va y avoir ce soir, c'est deux choses différentes. Mais je pense que dans leur très grande majorité, et ça a été le cas pendant la première période de confinement, les Françaises et les Français respectent ces mesures qui sont imposées, parce que tout le monde a bien conscience de la gravité de la situation, de la dangerosité de la maladie, et on a toutes et tous dans notre entourage des gens qui sont malades, des gens qui sont décédés, donc on est particulièrement touchés, on est vigilants. Maintenant, je rejoins ce qu'a dit M. Benhamia, c'est extrêmement difficile d'avoir un plan qui rassure et qui mette des mesures de façon cohérente, puisqu'on avance petit à petit, mais il y a quand même des choses, moi, qui m'alertent, et je veux vraiment attirer l'attention sur la question des transports publics. Ça fait depuis des semaines qu'on dit « mettez en place un plan de transport adapté », c'est-à-dire concerter les entreprises avec des horaires décalés pour permettre aux salariés qui sont obligés d'aller travailler de ne pas s'amasser dans des rames. Prenez les transports tous les soirs et tous les matins. Vous êtes complètement serré dans les rames de métro, donc c'est quand même extrêmement préoccupant.
Alors ils disent que dans les transports en commun, dans les masques, on ne se parle pas.
Parce que M. Djebbari dit circuler, il n'y a rien à voir.
C'est ce qui est annoncé.
Mais c'est la situation des transports est extrêmement préoccupante. Parce que c'est encore une fois les salariés les plus précaires qui vont devoir aller travailler. On va revenir dans ce qu'on a connu pendant le premier confinement.
Ah, c'est les premiers cordés, là.
Voilà, les caissières, les livreurs et tout ça. Donc on va leur imposer d'être dans des transports qui sont bondés, d'aller en plus travailler pendant cette période-là. Donc il faut prendre le maximum de mesures. Je crois que c'est pas sérieux. Le ministre des Transports, je lui lance un appel. Je l'ai interpellé plusieurs fois. Il nous a répondu sur les réseaux qu'il n'y avait rien à voir. Non, il faut un grand plan de transport adapté qui permette aux gens de circuler dans des conditions de sécurité maximales.
Éric Vérague, notre économie, elle sera-t-elle à genoux à la sortie de ce confinement saison 2?
C'est-à-dire, la question, c'est quand sera la fin du confinement?
Écoutez, on entend tout. Hein. 4 semaines, 6 semaines, et il y en a qui parlent même de 8 à 12 semaines.
Alors, moi, je pense que le confinement durera beaucoup plus longtemps que ça. Pour une raison simple, c'est que personne aujourd'hui n'a prouvé que c'était grâce au confinement qu'on avait arrêté la propagation du virus au mois de mai. Et qu'en réalité, aujourd'hui, scientifiquement, on n'est pas capable de dire que cette mesure va suffire à arrêter l'épidémie. Et que l'épidémie, on voit bien qu'elle est saisonnière aujourd'hui. Donc moi, j'ai la conviction que... En réalité, on arrêtera le confinement lorsque le printemps reviendra et que d'ici là, on restera confiné. Et je ne pense pas que la société française est prête à endurer cet effort pour une raison structurelle. C'est qu'en réalité, le confinement sert à protéger les plus fragiles.
Oui.
Et il ne sert qu'à ça.
C'est ce qui a été rappelé hier d'ailleurs. Hein.
Et le problème, c'est que les plus fragiles sont minoritaires dans le pays. On est en train d'infliger aujourd'hui à notre jeunesse une punition collective pour protéger les plus fragiles. Et ça ne tiendra pas dans la durée.
C'est un choix... ça a été évoqué hier soir par le chef de l'État. C'est doit-on laisser mourir au bas mot, puisque si on ne fait rien, on laisse circuler le virus. Les données chiffrent à 400 000 le nombre de victimes de ce virus. C'est un choix de société. Mais enfin, le mettre comme ça sur la table, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le présenter?
Mais attendez, ce n'est pas un choix moral. La question, c'est un choix de réalité. Moi, je ne dis pas qu'aujourd'hui, des gens sont pour ou contre. Je dis juste que quand je vois les réactions en Italie de la population, et notamment des jeunes, quand je vois ce que Florence évoquait à l'intermède, c'est-à-dire un certain nombre de jeunes à Paris qui sont allés défier l'ordre, je suis convaincu qu'il n'y a pas une endurance suffisante dans la société française pour accepter cet état de fait.
Vous trouvez, je trouve.
Moi, je pense que il faut là que tous les responsables publics se retrouvent pour avoir un discours de responsabilité. Moi, j'ai des filles qui sont ados et jeunes adultes, et j'entends cette petite musique-là, même si en l'espèce, elles ont respecté les règles. Et moi, j'ai un discours de responsabilité, même s'il y a des débats. Oui, c'est dur pour la jeunesse. Est-ce que c'est plus dur pour la jeunesse que pour des personnes qui se retrouvent à plus de 70 ans à ne plus pouvoir rien faire? Moi, je ne me livre pas à ce jeu d'équivalence-là. Alors, je dis, pardon, non, mais parce que ça, c'est très important. Moi, vous savez, la seule fois où j'ai pleuré dans ma vie, comme élue, je ne sais pas parce que j'aurais été élue ou que sais-je, c'est quand j'ai appris les décès jour après jour des personnes dans les EHPAD. Eh bien, moi, j'ai retrouvé des personnes âgées qui n'étaient pas dans les EHPAD, qui avaient vécu un mois de confinement total. Des gens que je connaissais, parce que comme mère, je les voyais régulièrement. Ils avaient pris 10, 20 ans. Est-ce qu'on veut d'une société qui soit une société à deux vitesses? Nous avons chacun notre part de responsabilité. Et oui, la vie, c'est difficile. Et oui, la vie, c'est pas aller où je veux, quand je veux, consommer ce que je veux, à l'heure où je veux. Nous avons un devoir.
C'est terrifiant d'entendre
ça. Nous
avons
un devoir collectif.
Et vous êtes qui pour dire ce qu'est la vie?
Je n'ai pas.
Chacun choisit librement. On n'est pas encore dans la dictature de la vie, c'est comme ça.
Dans une société qui est une société où il y a un devoir de solidarité, eh bien oui, il y a des fois, on doit s'imposer à soi-même des choses. Moi, je ne fais pas tout ce que je veux. Alors, vous appelez ça comme vous voulez. Mais oui, on ne peut
mais
pas
aller... Mais vous faites comme vous voulez, c'est votre choix.
Non, c'est pas mon choix.
Vous êtes libre de choisir votre mode de vie.
Non, bien sûr. Mais sauf que quand
mais moi,
je
n'ai pas envie
vies,
de vivre comme dans le 5e arrondissement. Je suis désolé. J'ai fait le choix de le quitter et je n'ai pas envie de vivre comme les bourgeois du 5e.
Mais arrêtez, tout ça, c'est de la provocation qui n'a absolument aucun intérêt.
Non, mais Eric,
c'est pas ça le sujet.
La seule chose intéressante, c'est ce que vous dites. Les autres, c'est pas intéressant.
Mais non, c'est pas ça. Je dis, on a tous un devoir de responsabilité. Et oui, c'est compliqué.
Mais ça ne s'appelle pas la responsabilité, Florence. Ça s'appelle la décision d'imposer d'une façon ou d'une autre, une règle à tous, alors que certains...
Parce que derrière,
je prends
c'est
un exemple.
Derrière, c'est la santé.
Je prends un exemple très concret, donc inintéressant. L'arrière-grand-mère de ma fille, qui a 93 ans, qui vit à Paris, dit « Mais moi, j'ai pas envie de porter le masque. Et si j'ai envie de tomber malade, j'ai le droit. » Et vous, vous lui dites « Ben non, c'est pas comme ça, madame la vie. » Mais vous êtes qui pour décider
à la place
des gens
c'est pas tout à fait
les
ça.
Risques qu'ils prennent dans leur vie?
Si elle prend sa...
Alors, je vais vous dire, la
si
version...
Maintenant,
je vais le formuler de façon intellectuelle.
Si elle prend son risque
la version au risque...
Mais elle ne fait pas prendre de risque à quelqu'un.
La version au risque que vous véhiculez, c'est ce qui met ce pays dans le mur depuis 20 ans. C'est le principe de précaution qui, d'une façon ou d'une autre, fait de nous une puissance déclinante.
Éric Garrague,
la vie, c'est un risque.
Éric Garrague, les services de réanimation qui sont surchargés.
Elle prend son risque à elle.
Oui,
mais
sauf qu'elle n'a pas le droit de sortir sans masque.
Éric Garrague, les services de réanimation qui s'annoncent comme surchargés. Ça, c'est pas une vue de l'esprit. Est-ce que là, ça ne mérite pas effectivement que les gens fassent un minimum de...
Moi, là-dessus, je suis pour une mesure totalement carrée. Et je sais que je suis totalement minoritaire.
Parce que, a priori,
je
c'est comme le sida, il n'y a que le port du masque qui marche
pour
l'instant.
Je pense que les gens
et
se laver les mains.
Je suis pour que les gens qui revendiquent la liberté de faire autrement renoncent, en effet, à cette solidarité qui est l'assurance maladie gratuite. Et les gens doivent assumer le fait que s'ils décident de sortir du système... Eh bien, ils n'auront pas accès à l'hôpital public ou à l'hôpital, ils l'auront à l'hôpital.
Il s'avère que, en fait, c'est pas légal. Mais pardon, non, mais je voudrais juste 2 minutes revenir là-dessus.
Mais je suis contre le monopole de la Sécu.
Le sujet, c'est pas sa petite personne. Que vous vouliez prendre des risques tout seul pour tout seul attraper.
Si, le sujet, c'est votre petite personne.
Non. Au bon sujet, c'est pas ma petite personne parce que j'ai été seule dans les rues pendant des jours. Et c'est mon devoir. Mais le sujet, c'est pas ça. C'est le fait de donner potentiellement à quelqu'un. La maladie, quelqu'un qui n'a rien demandé. Que quelqu'un dise, moi tout seul, je m'en fous. Mais le sujet, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'on peut contaminer quelqu'un d'autre. Et pardonnez-moi, là-dedans, il y a quelqu'un dont on n'a pas besoin, dont on n'a pas parlé. C'est le soignant. Le soignant qui prend des risques et qui, à un moment donné, va devoir choisir. Parce que si tout le monde se comporte comme ça en disant, après tout, vive la liberté et puis parions sur l'immunité collective, on va faire comment? Avec, même si on arrivait, rêvons un peu, à 12 000 places de réanimation, les études, c'est dans
Donc, rapidement.
Le 6 novembre, ça sera 98% des lits occupés par des Covid.
C'est ça. 9000 personnes, c'est les projections. C'est l'Institut Pasteur. On peut penser que c'est des chiffres qui sont à peu près, si effectivement rien n'est respecté au niveau du confinement, à peu près sérieusement. On continue d'en parler. On va s'intéresser sur l'aspect économique aussi, parce que c'est l'autre enjeu. Il y a le sanitaire et il y a l'économie également. Est-ce qu'on va s'en relever ou est-ce qu'on est capable de passer cette épreuve sans trop de dommages? Et les projections ne sont pas très réjouissantes quand même là-dessus. On va y revenir dans un instant et vous nous appelez si vous le souhaitez. 0826 300 300. On continue de parler de ce confinement, reconfinement saison 2 qui redémarre ce soir en France.
Sud Radio 10h midi, débat.
Allez, dernière ligne droite pour notre débat. 0826 300 300 et nos débatteurs du jour, Jean-Luc Benamias, Thomas Porte, Florence Berthaud, Éric Vérag. On parlait de ce confinement, reconfinement qui redémarre ce soir pour au moins 4 semaines. Donc 1er décembre, c'est la date qui a été fixée et avec fermeture ce soir notamment des commerces non essentiels, donc les bars, les restaurants. Alors les floristes...
Les librairies, j'ai pas compris, peut-être les librairies.
Non, ça ferme. C'est que les floristes jusqu'à dimanche qui vont pouvoir
les
rester
librairies sont
des commerces ouverts.
Essentiels.
Et donc hier soir quand même, Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Jean-Luc Benamias, Emmanuel Carodi soutient l'économie avec toujours le quoi qu'il en coûte. Hein. Ça a été prononcé.
Oui,
hein.
L'argent coule à flot. Je n'y crois pas. Je crois qu'effectivement, on prend les mesures nécessaires pour sauver ce qu'on peut sauver. Mais je ne vois pas comment l'économie des artisans, l'économie de la restauration, l'économie de la culture pourra survivre directement à tout ça si ça dure au-delà du 1er décembre. Je n'invente rien. C'est malheureusement la triste réalité. Je l'ai dit tout à l'heure et d'autres l'ont dit sur ce plateau, les choses sont extrêmement complexes, mais à un moment donné, je ne suis pas certain que, on verra dans les 15 jours, Emmanuel Macron l'a dit hier, si tout ça, toutes ces mesures servent réellement à quelque chose dans un virus qu'on ne maîtrise plus.
Qu'est-ce que vous pensez qu'un virus qu'on maîtrise plus, oui, puisqu'il est hors de contrôle, et y compris il y a de chez nos voisins européens, la situation est guère plus réjouissante. Alors visiblement, il y a également des mesures qui vont être prises du côté bancaire, parce qu'on arrive en fin d'année, là où les PGE devaient commencer à être remboursés. Donc visiblement, il va y avoir des prolongations compte tenu du reconfinement qui s'impose à certaines entreprises. Le télétravail va être la règle, le présentiel va être l'exception. C'est ce qu'on peut comprendre. Et les lieux qui reçoivent du public seront en sachant que les services publics vont rester ouverts. Donc, est-ce que toutes ces mesures, ces dérogations qui vont être prises, est-ce que c'est lisible, selon vous, vous trouvez, Thomas Porte ?
Je pense que c'est extrêmement complexe. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été annoncées. On a effectivement du mal à...
On va ressortir des protocoles sanitaires d'ici lundi partout.
Oui,
hein.
Je pense que l'état d'urgence sanitaire va venir enclencher tout ça. Donc on attend ce soir la conférence de presse du Premier ministre qui va notamment donner des précisions sur ce qui va être ouvert, pas ouvert, les autorisations, les dérogations. C'est extrêmement abstrait, mais effectivement, les questions économiques sont particulièrement inquiétantes puisqu'on a les restaurateurs, les entrepreneurs, les artisans, le monde de la culture.
Les indépendants. Hein.
On parlait tout à l'heure des librairies. Je ne vois pas comment aujourd'hui ces personnes-là vont pouvoir se relever de cette situation-là qui est particulièrement inquiétante. Et effectivement, l'État...
Mais on pourra toujours aller acheter des livres en supermarché.
Oui, c'est ce qui est...
Amazon, malheureusement.
Oui.
Donc voilà, il y a aussi le deux poids deux mesures. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, le quoi qu'il en coûte. Moi, je fais une parenthèse parce qu'il y a quand même la question de la santé où le prisme économique rentre dedans. Au mois de mai, Olivier Véran avait dit qu'il faudra sortir du dogme de la fermeture de lits. Et on a vu que des lits continuent à être fermés pendant l'entre-période de confinement. Donc c'est aussi ça la réalité de ce gouvernement. Il y a des paroles et les actes qui sont en contradiction avec ce qui est dit. C'est extrêmement inquiétant. Et j'ai bien peur que les sous-traitants des grandes entreprises qui ont déjà payé un très lourd tribut pendant cette période-là soient encore victimes de ça. On voit à Toulouse ce qui s'est passé avec Airbus. La fermeture des sous-traitants en cascade. Mmh. Il faudra regarder l'argent public.
45 000 emplois déjà.
Il faudra regarder l'argent public, à qui il est donné. Il faudra le conditionner, parce que ça, on n'en parle pas, mais il faudra remettre ça sur la table pour ne pas avoir des grands groupes qui touchent de l'argent public et qui licencient derrière. Donc il faut prendre des mesures drastiques et regarder à qui on donne, comment on exerce le pouvoir sur l'argent public. C'est très important.
Il y a des métiers qui vont disparaître. Moi, je voulais avoir votre avis aussi. On estime à 2 millions de personnes qui vont devoir changer complètement de métier. Est-ce que la formation professionnelle à la française va fonctionner? Et fonctionne déjà bien pour permettre d'orienter les gens vers des secteurs où on aura du travail à leur donner. Éric Vérag.
Ben, en fait, je crains que la question ne se pose pas directement comme ça. C'est-à-dire que le premier sujet, c'est que les gens, pour être concrets, parce que le problème de l'économie, c'est que c'est concret. les gens vont faire leurs courses de Noël sur Amazon.
Ah, ça c'est clair.
Et donc, enfin, Amazon sur Internet en général. Les petits commerçants français qui ont fait le choix de réouvrir au mois de mai et qui perdent de l'argent depuis qu'ils ont réouvert parce qu'ils n'ont pas retrouvé le chiffre d'affaires qui leur permet de tenir, vont être complètement coulés. Et aujourd'hui, la mesure de confinement qui est prise, elle favorise de fait les grands acteurs américains de la vente en ligne. Donc il faut être clair sur le fait que le confinement, c'est une mesure qui est à rebours du Made in France et qui, au contraire, est une mesure favorable aux géants de l'Internet. Et que le problème ne va pas être de convertir les salariés qui vont voir leur métier disparaître. Le problème, ça va être de leur trouver un job une fois qu'ils seront formés. Parce que former les gens pour leur dire « c'est vachement bien, t'as un diplôme », mais la situation économique est telle que de toute façon, il n'y a plus assez d'emplois pour tout le monde, ça va être un problème de fond. Et là-dessus, malheureusement, en effet, il n'y a pas de débat. Ce que Florence Berthoud appelait tout à l'heure la responsabilité, ce qu'elle prétend être de la responsabilité, c'est en effet organiser un désastre économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la position de « il faut confiner » et tout, c'est organiser la paupérisation durable de la société française. Et cette paupérisation, nous n'avons pas aujourd'hui de moyens de l'éviter, en dehors d'empêcher le confinement. Et ce sujet-là n'est évidemment pas traité.
Florence Berthoud, en tant que maire du 5e arrondissement de Paris, que les marchés de plein vent restent ouverts, c'est une bonne solution.
Je l'ai toujours demandé. Je ne comprenais pas qu'ils aient été fermés.
Plus près du micro, Florent.
Qu'ils aient été fermés. Ouais. La réalité, c'est qu'il fallait évidemment qu'on les garde ouverts en faisant des mesures de distanciation physique, comme on dit, qui soient appropriées. Bon. Et on a toujours tendance, par contre, en France, à donner la mesure et puis pas l'accompagnement. Donc on a mis la charrue avant les bœufs. Il fallait dire comment on peut faire en sorte que les gens ne prennent pas de risques ou prennent des risques très mineurs en allant sur les marchés. Et c'est ce qui a été fait. Mais moi, j'ai anticipé déjà en demandant à ce qu'un de mes marchés, déjà, on commence à réfléchir pour mettre des marchés en quinconce. Enfin, il y a des choses qu'on sait faire avec un peu de bon sens, de grâce, avec un petit peu de bon sens. Mais on voit bien que là, on est en train de s'affronter, finalement, c'est un débat, bien sûr.
Sur le principe de réalité.
Sur des principes, mais où on n'est pas d'accord. Et c'est vrai qu'il faut... on n'est pas d'accord parce que il y a deux principes qui s'affrontent. Mais d'ailleurs, dans le débat politique, on le voit bien. C'est-à-dire, ceux qui disent, dont je fais partie, et peut-être que j'ai totalement tort sur le plan économique, mais la santé prime avant tout, et je refuse sur le plan moral, moi, que ça puisse que la liberté puisse aboutir de près ou de loin à trier ceux qui sont en bonne santé, en mauvaise santé, ceux qui ont accès au lit de réa, etc. Ouais. Et puis le reste. Mais là où je suis d'accord, c'est que oui, c'est vrai, là je suis d'accord, le confinement est un désastre économique. C'est une réalité.
Sociale.
200 milliards d'euros de déficit, 3 points de PIB pour le premier confinement.
On rappelle les projections faites notamment par les grands organismes, les grandes ONG humanitaires qui annoncent entre 1 et 2 millions de pauvres en plus à la fin de l'épisode de confinement. C'est un vrai défi.
L'accès à l'alimentation, c'est un énorme défi.
Si vous le voyez bien, on va changer complètement de sujet. On va revenir au premier sujet rapidement avant de conclure cette émission sur cette attaque au couteau à Nice, qui a fait ce matin, je vous le rappelle, 3 morts. Et on est en ligne avec le porte-parole de la Conférence des évêques de France, Vincent Némon. Bonjour.
Bonjour.
J'imagine l'immense émotion qui est celle de toute la communauté catholique après cette attaque dans cette église, dans cette cathédrale de Nice.
Oui, l'immense émotion, l'immense tristesse, le souvenir douloureux récent de l'assassinat de Samuel Paty et puis celui plus vif encore, si on peut dire, pour les catholiques, de l'assassinat du Père Hamel.
Saint-Étienne du Rouvray en 2016, oui.
Exactement, donc une grande tristesse, beaucoup d'émotions. Et puis, vous savez, sans doute aussi que ces meurtres visent plus que les catholiques, mais tout le pays. Nous sommes bien conscients et la menace actuelle qui vise les chrétiens vise aussi... tout le modèle occidental que nous représentons et ces meurtres, on le voit bien, vont par-delà la communauté catholique elle-même. Alors, nous pensons d'abord à ces personnes qui sont mortes, à celles qui sont blessées. Nous pensons, et pour ceux qui ont la foi, nous prions pour leurs familles, leurs proches. Et puis, nous, nous disons que malgré cette douleur, il faut pas céder à la peur. C'est pas facile à dire parce que on peut comprendre que la peur maintenant traverse le cœur de tous les Français et de particulièrement les chrétiens, mais qu'il faut qu'on reste debout, et j'ai envie de dire debout dans nos églises ouvertes, parce que on le voit bien, notre fraternité, vous savez, cette partie de la devise républicaine que parfois on oublie un peu, eh bien, elle se vit aussi dans les églises, elle se vit aussi chez les croyants, et je pense que tout le monde, croyant ou incroyant, peut comprendre que aujourd'hui nous sommes face à un défi de fraternité qui sera sans doute, avec la lutte contre la gangrène qu'est le terrorisme, la clé pour que nous fassions face.
Merci beaucoup pour cette réaction à Vincent Nemon, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Et j'ajoute pour conclure que l'on a appris également ce matin qu'à Avignon, il y avait également eu une attaque au couteau contre des policiers et que l'auteur de cette attaque au couteau a été abattu. C'était peu après 11h15 ce matin, sans doute un effet d'entraînement. Enfin, en tous les cas, tout ça méritera d'être éclairci par l'enquête qui est ouverte à Nice, mais également du côté d'Avignon. Merci à vous quatre. Jean-Luc Benamias, Thomas Porte, Florence Berthoud, Éric Vérague, pour votre débat du matin, un peu bousculé par l'actualité malheureusement liée à cette attaque ce matin du côté de Nice. On se retrouve demain dès 10h d'abord avec les médias et Valérie Expert, et puis 10h45, et on continue d'évoquer c'est cette actualité très, très dense encore aujourd'hui, dans un instant après les infos, avec Philippe David qui remplace André Berkoff aujourd'hui. Très belle journée. Très bon appétit, et on se retrouve demain matin.